Aujourd'hui, de nombreux chercheurs et chercheuses explorent de nouveaux formats pour diffuser leurs travaux dans les cercles académiques ou auprès du grand public. Depuis quelques années, au même titre que les romans, les bandes dessinées ou les films, les podcasts font partie de ces formats émergents. C'est pourquoi l'ENS de Lyon a lancé en janvier 2025 un programme d'accompagnement nommé ESOR, pour écriture sonore de la recherche. L'équipe de la web radio Cadécole de l'Institut français de l'éducation a donc proposé aux enseignants-chercheurs et doctorants intéressés de l'ENS de Lyon et des autres établissements du pôle universitaire lyonnais de pouvoir être accompagnés pendant un an dans la perspective de renouveler leurs pratiques de diffusion de leurs travaux scientifiques en créant leur propre production sonore. Cet accompagnement annuel s'appuie également sur l'expertise de Séverine Leroy, maîtresse de conférence à l'UCO, pratiquant le documentaire sonore comme outil d'écriture de recherche et de création. La journée d'études ESOR, qui a eu lieu le 24 janvier 2025 à l'ENS de Lyon, est le premier temps fort du programme d'accompagnement à l'écriture sonore de la recherche. Elle s'apparente à une journée de lancement, qui s'appuie sur des retours d'expérience de chercheuses et chercheurs pour témoigner de leur cheminement scientifique et de la nécessité, pour eux, d'explorer ces nouveaux formats et nouvelles écritures. Vous retrouverez dans ce podcast la première table ronde de la journée d'études, centrée sur les motivations des intervenants quant à leur pratique de l'écriture sonore. Elle est animée par Régis Guillon, directeur adjoint de l'IFE et producteur de l'émission « Ça manque pas d'air » sur Cadécole.
Je pense que je vais éviter de présenter tout le monde parce qu'il y a trop de monde pour moi. On n'a qu'une heure, un peu plus d'une heure. Donc je vais être directif sur... Et puis je vais vous demander, quand vous prenez la parole pour la première fois, de vous présenter. Voilà, qu'on sache un petit peu d'où vous parlez. Et donc la première question dans cette table ronde, parce que c'est ce que je viens de dire, c'est pourquoi à un moment donné, quel était le motif, la motivation, le déclencheur, on pourra voir derrière, ce qui a provoqué le déclenchement de la démarche. Mais qu'est-ce qui a pu, j'avais proposé que Olivier Givre commence, de dire, voilà, qu'est-ce qui a pu motiver, parce que, comme disait Christine au tout début, des chercheurs qui collectent des sons, pour appeler des données de la recherche, il y en a beaucoup. Par contre, des collègues qui lancent des productions pour diffusion, c'est pas tout le monde. Donc, qu'est-ce qui a provoqué, étant donné la discipline, voilà, je sais pas si c'est un lien avec la discipline, mais qu'est-ce qui a provoqué cette démarche-là?
Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais il y a quand même aussi des éléments biographiques, à la fois personnels, professionnels, qui jouent un rôle à un moment donné. Moi, j'ai l'impression que par mon parcours de formation, mon parcours professionnel, je suis entre le champ académique et extra-académique. Ça, je pense que c'est aussi important de savoir comment on se positionne. Et donc, moi, j'ai l'impression que ça a joué un rôle, le fait que j'ai aussi des expériences extra-académiques qui font que, notamment dans la communication, les médias, le développement local, etc., c'est-à-dire la capacité à parler non seulement un langage académique, mais aussi et la nécessité de devoir parler d'autres types de langages. Ce qui fait qu'à un moment donné, moi, je me suis dit comment est-ce que je combine ça, et j'ai assez souvent eu le sentiment qu'effectivement, le type d'écosystème dans lequel on rentre quand on est à l'université, peut-être CNRS, etc., implique des normes d'écriture, des normes de transmission, des normes de fabrication du savoir, des manières aussi d'évaluer, etc., qui ne me semblaient pas suffisantes. Voilà. Donc, dans mon cas, je pense que c'est... J'ai d'abord pensé ce type de pratique qui est venu sur le son, mais il y a le son, mais il y a aussi d'autres modalités qui sont parfois connectées, audiovisuel, photo, ça peut être le dessin, donc on ne peut pas être de partout, ni bon de partout, mais je pense que c'est aussi important d'imaginer que, de se représenter que ce que l'on fait quand on travaille avec le son percole ou résonne aussi avec d'autres types de pratiques d'hybridation avec la création.
Mais par rapport à l'objet de recherche qui est le vôtre...
L'objet de recherche, moi je suis spécialisé, enfin en tout cas je travaille depuis 25 ans dans les Balkans, en Bulgarie et en Grèce, et le projet dont je vais parler tout à l'heure correspond précisément à un projet notamment sur le son. J'ai travaillé sur la mémoire sonore du communisme dans un pays qui s'appelle la Bulgarie, et au moment où j'ai... C'est-à-dire, le fait de m'intéresser au son m'a permis d'aller vers ce sujet. Aller vers ce sujet a supposé que j'en adopte un traitement sonore. Donc, j'ai pris l'exemple d'une radio soviétique qui a disparu. Et j'essaye d'aller sur ces traces sonores. Et l'idée, c'est que c'est un petit peu ce que dit Feld dans un bouquin qui s'appelle « La recherche comme composition ». Il ne s'agit pas simplement de travailler sur les sons, mais par les sons et avec les sons. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, tu fais ton enquête là-dessus, il va falloir à un moment donné empoigner les choses par le son et avec le son. Voilà. Bon, peut-être que pour ne pas être trop long...
Merci. Ouais. Je précise tout de suite qu'il y a une sorte de frustration à se dire quels sont les sons dont on parle. Vous les entendrez dans la journée. Il y aura de l'écoute pendant la journée. Mais pour cette première présentation, on reste à un niveau de, j'ai l'air de présentation de où les uns et les autres se situent. Donc voilà, vous aurez très vite des sons à entendre. Marie Fierens, dans la même idée par rapport à votre parcours et là où vous êtes, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette question, cette production est devenue une nécessité ou une obligation ?
Merci. Je vais essayer de jouer avec mon ordinateur et le micro en même temps où j'ai pris des petites notes. Voilà, je tenais quand même tout d'abord à remercier vraiment toute l'équipe pour l'accueil. C'est incroyable qu'on puisse être tous ensemble et qu'on puisse partager tout ça. Donc merci à l'équipe, merci spécial à Florence, c'est vraiment un bonheur. D'où je parle, la positionnalité. Donc l'aventure sonore a commencé pour moi, qui suis enseignante-chercheuse en information et communication, en journalisme finalement, qui travaille sur l'Afrique, qui fait beaucoup de terrain, comme on dit, en Afrique, qui pose beaucoup de questions aux gens en Afrique. Elle a commencé en 2018 avec une collègue historienne, elle, donc on n'était pas de la même discipline, qui faisait aussi beaucoup de terrain, de nouveau en Afrique, qui travaille sur la justice internationale, notamment au Rwanda. Et en fait, je vais le dire comme c'était à cette époque-là, on était à peu près 6 ans après la défense de nos thèses. On n'avait pas de poste permanent à ce moment-là. Et on faisait le constat que c'est quand même un monde, l'académique, qu'il faut beaucoup publier, qu'il y a des normes, on en a beaucoup parlé. On était très frustrés parce que nos expériences de terrain, ce qui nous semblait être un savoir-faire, et puis surtout les voix qu'on entendait et qu'on récoltait, elles étaient un peu écrasées par ces normes, par l'écrit, par une note de bas de page qui apparaît à la fin d'un article, alors que nos noms brillent sur des articles peer-reviewés en anglais dans des revues inaccessibles à toutes ces personnes. Voilà, on était extrêmement frustrés. En fait, je pourrais parler très longtemps de ça, mais donc c'est dans un moment de grand désarroi qu'on s'est dit, à nous-mêmes, tu sais quoi, on va faire un truc qui nous plaît. Voilà, c'est parti comme ça. Après, depuis, on réfléchit. Donc là, je pourrais en parler beaucoup, mais c'était vraiment une impulsion, un élan, juste... On va faire autre chose, c'est plus possible, on a besoin d'air. Donc c'est parti comme ça. Depuis, on a cheminé, donc on a continué à faire des choses ensemble. Ma collègue, je vais quand même la citer, Ornella Rovetta, donc historienne, et moi, on a finalement fait plusieurs productions, réalisations, qui ont eu des formes différentes, avec des envies différentes. On a d'abord donc ce premier élan, cette première frustration nous a mené à travailler avec un ingénieur du son qu'on a emmené avec nous au Rwanda à partir de la recherche d'Ornella. Donc on est allé faire autrement de la recherche, à partir de la recherche, c'était son bouquin qu'elle a publié. Et ça a fait finalement deux chapitres, je crois, deux réalisations de 15 minutes avec RFI et avec la RTBF. Donc je suis de Bruxelles, donc la RTBF étant le média public en Belgique. Voilà, et puis après on a continué, on est allé plus vers mon domaine, on est allé récolter les voix des journalistes rwandais en exil au Burundi, donc là il n'y avait pas de recherche existante, par contre après on a publié là-dessus, parce qu'on l'a dit en introduction ou je ne sais plus comment, mais il faut pas oublier les murs, ils sont là, et c'est important de faire avec. Donc je disais hier, entre nous, je suis un peu un agent double, je joue avec les codes, j'ai maintenant le privilège d'avoir un poste permanent, et donc j'essaye de créer là des espaces de résistance, tout en maniant les codes. Après, moi, je suis allée de mon côté avec des journalistes au Burkina Faso, je me suis dit, mais en fait, ces journalistes, ils ont un micro, pourquoi c'est moi qui vais tendre le micro aux journalistes? Pourquoi c'est pas eux qui vont, avec moi, tendre le micro vers ceux qu'ils connaissent mieux que moi? Et donc, On a fait ce qu'on pourrait appeler une recherche participative. Ce sont des grands mots, je n'ai aucune prétention. On a travaillé ensemble, disons, pour produire un podcast avec eux. Et puis après, avec le grain des choses dont on a beaucoup parlé et qui nous rassemble, et j'en suis très, très heureuse, je suis revenue toute seule cette fois-ci sur un des premiers entretiens que j'avais fait à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en 2010, avec un petit dictaphone. Heureusement, j'avais gardé les sons. Et j'avais toujours eu cette envie, je m'étais dit, il se passe plein de trucs incroyables, en fait. Mais dans ma thèse, je vois bien les gens, et dans mon jury, ils n'ont pas idée de ce qui s'est passé, là. Ça paraît lisse, ça paraît bien, alors que... Il y a du whisky. Derrière tout ça, il y a beaucoup de négociations, il y a des chauffeurs qui viennent me chercher, il y a des palabres, etc. Et donc j'ai voulu faire entendre cette fragilité aussi de moi qui suis là à ce moment-là. Et donc ça, c'était vraiment très, très, très important pour moi. Je vais m'arrêter bientôt. Et dire encore que la résistance peut fonctionner. J'ai maintenant eu la chance, ça fait que depuis octobre, d'avoir un mandat permanent, et j'ai mis le son dans mon projet de recherche. Pas que, mais ça a marché quand même, donc on va peut-être y arriver. Et voilà, et maintenant, il y a d'autres programmes comme ça. J'aurai encore plein de choses à dire, mais je laisse...
Il y aura la journée pour développer et déplier. Thomas Vest, donc on est allé en Bulgarie, on est allé en Afrique subsaharienne. On va revenir du côté de Marseille. Et pareil, là, vous êtes doctorant, donc à un moment de la carrière, il y en a d'autres ici. Hein, voilà, pourquoi le podcast... Je pose la même question un peu, mais en reposant le contexte. Pourquoi le podcast est une nécessité par rapport au travail que vous menez ?
Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation ici pour la journée d'études. Le podcast, pour moi, ça a été une obligation à un moment donné, parce que pour arriver justement aussi à écrire, à raconter ce que je voyais sur le terrain...
Peut-être situer...
Moi, je bosse du coup sur les conditions de travail et les grèves dans les écoles marseillaises du personnel non enseignant, donc les ATSEM, les agents de restauration, de cantine. À Marseille, on les appelle les Tata, pour beaucoup. Et du coup, à Marseille, il y a pas mal de grèves, hein, ce qui participe à une... Enfin, ça remplit pas mal de discussions, les grèves dans les cantines, avec l'OM et les grèves des éboueurs. C'est trois thèmes assez centraux. Et donc, du coup, il y avait cette idée, par contre, d'essayer de donner la parole à ces femmes qu'on n'entend quasiment jamais. Parce que les grèves sont un peu balayées, il y a beaucoup de préjugés dessus. On pose un peu chacun, comme ça perturbe pas mal le quotidien de la plupart des gens. Chacun pose un préjugé dessus. Et puis de tous les corps de métier qui travaillent à l'école, il me semblait que c'était un de ceux qu'on entendait le moins. Donc du coup, il y avait cet enjeu de redonner la parole, et puis il y avait cet enjeu aussi de faire entendre ce qui se passe, pourquoi se mettre en grève à un moment donné. C'est-à-dire que si on ne comprend pas aussi le bruit, si on ne prend pas en compte la quantité d'informations qu'elles ont au quotidien, chaque minute de leur travail, tout ça, effectivement, les grèves, des fois, on peut se dire « bon, c'est un peu surfait ». Quand on entend le bruit dans une cantine avec 120 millions, on se dit bon, peut-être qu'il y a un peu plus de matière. Voilà, donc c'était aussi de mettre du son sur la fatigue, sur la pénibilité. Et un troisième élément qui me paraissait important, c'était c'est un public qui, pour le coup, n'ira jamais ouvrir, pour la grande majorité, une revue scientifique, parce que c'est comme ça, parce que c'est académique, parce qu'il y a beaucoup de normes, parce que c'est pas forcément leur lieu de... Ou avec lequel elles sont très familières. Donc c'était aussi me poser la question à un moment donné de dire je reprends énormément de temps, je passe beaucoup de temps avec elles, elles m'ouvrent leur école, elles m'ouvrent les cantines, elles me racontent des trucs alors qu'elles portent un plat, qu'elles ont 8 petits qui sont en train de hurler à une table, et elles prennent quand même le temps de m'expliquer ce qui se passe. Donc c'était essayer de me dire comment j'arrive à trouver un format où, si ça les intéresse, peut-être qu'elles iront plus écouter. Et ça a été pour le coup une joie, une réussite pour ce travail, parce que j'ai eu plusieurs femmes que j'ai suivies, qui l'ont écouté, avec qui j'ai pu avoir des retours, un peu se mettre à portée de baf et de retours de la part des personnes qui nous accordent énormément de temps.
D'où l'importance de ce que je disais tout à l'heure sur la diffusion et la réception, et de comment ça boucle par rapport au public, ou aux enquêtés, comme on dit, avec qui vous avez travaillé, qui vous ont fait confiance. Et comment on restitue ça? Alors Séverine Leroy, quel est votre motif ou motivation sur... Là, on va vous retrouver sur la journée, puis on aura le programme Prazor tout à l'heure en présentation. Donc on pourra déplier plein de choses. Mais vous, la motivation première le déclencheur, on verra tout à l'heure, mais la motivation première.
Ah, pas le déclencheur d'abord.
Alors, le déclencheur, on pourra faire la transition après sur le déclencheur, mais...
Mais en même temps, ma motivation est liée au déclencheur. Je suis un petit peu un ovni. Et d'abord, je voulais vous remercier pour la mise en œuvre de cette journée et du programme qui suivra. C'est formidable et un grand, grand merci. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Merci, Florence. Parce que c'est lié, et je suis un petit peu un ovni parce que j'ai des études en art, en fait, et je suis maître de conférence en études théâtrales. Et ça vient de là. Ma première expérience, elle date de 2014. Elle se produit à France Culture et elle est liée à un projet de création que j'avais à l'époque sur la question des casques bleus dans les situations de conflit en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Et moi, j'écrivais une pièce, je montais une pièce au plateau, sauf qu'en fait, pour écrire cette pièce, nécessairement, je me nourrissais des témoignages et je voulais que ces témoignages existent. Et donc, l'extension, c'était comment trouver un espace pour faire entendre ces témoignages. Donc, c'est venu comme ça. C'est un atelier de la création radiophonique qui a été produit par Irène Omelianenko pour France Culture. Et ça s'est appelé « Défaut d'ingérence, parole de casque bleu en ex-Yougoslavie ». Et là, j'ai senti que j'avais plongé dans un univers où il était possible d'éprouver, de raconter des choses de façon infiniment plus riche avec le son qu'avec l'écrit. Bien que, évidemment, j'ai une passion pour l'écrit, c'est aussi de là que je viens. Donc la question s'est poursuivie. Il y a eu une autre production qui, cette fois-ci, était bien plus liée à ma recherche. Ça a été un documentaire sur Didier-Georges Gabilly pour Une vie, une œuvre, toujours sur France Culture. Et là, j'avais soutenu ma thèse. Donc c'était aussi dans une thèse, on va chercher des archives audiovisuelles et sonores, on va entretenir les comédiens, on va réveiller cette mémoire d'un passé artistique, d'un compagnonnage, et je voulais les faire entendre, d'où ce nouveau documentaire. Sauf que le déclencheur, il vient de là. À France Culture, c'est merveilleux. J'ai découvert qu'avec le son, je pouvais m'aventurer dans cette écriture. Et néanmoins, j'avais, comme vous vous en doutez, toute une équipe avec moi. Et donc, je produisais, en tant que productrice déléguée, j'amenais le projet, j'amenais les idées, je gérais le projet. Mais évidemment, parce que c'est France Culture et parce que c'est professionnel, absolument professionnel, il y a des techniciens pour prendre le son, il y a une réalisatrice, en l'occurrence c'était des femmes, qui vous accompagnent dans le projet, et puis ensuite, une fois la réalisation terminée, où on n'est jamais, on touche jamais un micro, on touche jamais le banc de montage, on est là en dialogue pour s'assurer que notre projet va se dérouler, et puis après c'est le mixage.
Donc du coup, dans le processus, le sentiment que ça nous échappe.
C'est pas tant que ça nous échappe, c'est un vrai compagnonnage, une vraie collaboration. Et,
mais une frustration quand même.
Mais quelque chose où on se dit, bah, si j'ai pas France Culture, comment je fais ? Alors je peux pas décrocher une production à France Culture en permanence. Et puis aussi, c'est des cadres de production où le temps est limité, où l'argent est limité, et où vous avez, et ça s'est réduit de plus en plus, vous aviez à l'époque 10 jours pour produire un documentaire de 50... Est-ce qu'on était à 57 minutes, 51 ? Là aussi, ça descend. Moi, je me suis dit, bon, bah, très bien, j'ai envie de continuer, mais à un moment donné, il va falloir que déjà j'aille chercher le micro et que donc je m'empare du terrain. Donc ça a été la première phase. Il me fallait toujours quelqu'un pour la réalisation parce que j'étais absolument nulle et il fallait que je me forme. Et la deuxième phase, et c'est l'origine de Prazor dont on parlera plus tard, c'est de se dire, bon, c'est bien, t'as enregistré ton terrain, plus ou moins bien. Maintenant, il va falloir réussir à raconter ce terrain. Et donc, il y a une phase intermédiaire où je travaille avec un réal et je suis en collaboration. Mais là encore, je trouve que quand même, je suis un peu coincée quand je veux tâtonner, chercher, parce qu'un studio, ça coûte cher. Encore une fois, il faut payer l'ingé son. Et donc, on a 2 jours pour faire le montage. Et puis, il n'y a pas d'errance possible. Alors moi, ce système de production m'a bloqué parce qu'en tant que chercheur, je trouve qu'on est lent et que la lenteur, c'est de la pensée. On a besoin de ça. Et alors, pour assumer cette lenteur, il fallait s'emparer des outils. Il fallait se dire, je vais m'émanciper. Mais je vais m'émanciper et ça passe par l'apprentissage technique. Donc évidemment, par toutes les bêtises qu'on peut faire avec ça. Mais tant pis, l'émancipation, elle va passer par là. Et voilà le déclencheur.
Donc l'appropriation aussi des outils, de l'expertise sonore de la production qui est embarquée en plus de l'expertise scientifique.
Donc, exactement.
C'est d'essayer de faire la totalité de la boucle de la production.
assurer du début à la fin un chercheur en situation de maîtriser son terrain du début à la fin et son récit sonore, donc sa pensée, parce qu'en fait c'est là aussi, on plonge dans une pensée de la recherche par le sonore. Je suis très heureuse que tu aies cité Stephen Feld, qui fait partie des gens qui nous inspirent énormément. C'est ça, l'acoustémologie. À un moment, on a basculé dans un autre monde, on a plongé en sonographie, pour un petit clin d'œil à Roberto Barbanti, qui est aussi très inspirant.
Merci. Alors Isabelle Coutant, alors vous avez l'expérience, vous, avec Arte Radio, là, c'était Radio France, donc pareil, avec des équipes techniques... avec des équipes techniques à disposition, j'allais dire. Et vous, il y a un processus et il y a une démarche. Là, il y avait quand même aussi une démarche et un déclencheur qui a motivé le podcast, encore une fois, dont vous entendrez des extraits un tout petit peu plus tard dans la journée.
Bah oui, moi aussi, je vous remercie là, toute l'équipe d'avoir organisé cette journée et puis de m'avoir invité, puis d'avoir invité Mediaudic qui sera là cet après-midi, parce que moi, le rapport au podcast, il est indissociable d'un compagnonnage. C'est-à-dire que quand j'étais en thèse, en fait, et jeune maman, eh ben, à l'école, il y avait un autre jeune papa qui faisait, lui, qui était technicien son et qui commençait à s'intéresser à la réalisation sonore. Et il me parlait de ce qu'il faisait en montage radio, et moi, je lui parlais de comment j'écrivais ma thèse en faisant aussi du montage dans ma matière empirique, et on trouvait que ça se ressemblait pas mal. Et donc voilà, c'était des échanges comme ça. Et quand j'ai soutenu ma thèse, il est venu à la soutenance de thèse. C'était une thèse sur les sorties de délinquance. J'avais des terrains dans le Val d'Oise, dans les cités du Val d'Oise. Et il a eu envie, donc là, c'était 2005, lui, de faire un... Je crois que c'était peut-être son premier documentaire radio. Mais peut-être il précisera cet après-midi. Un documentaire sur ce travail de thèse. Alors moi, j'étais personnage de ce premier documentaire de 2005. Qui avait le titre d'Élite Jeunesse, qui était le titre du livre qui est sorti la même année. Lui, ce qui l'intéressait, c'était ma relation aux enquêtés et puis la manière dont les enquêtés percevaient l'enquêtrice. Et donc, il est allé avec ma thèse, toute fraîche, retrouver des jeunes dont je lui avais donné le contact. J'ai juste donné les numéros de téléphone. Donc ça, c'était un premier travail qu'il avait fait, lui. Ça dure 26 minutes. Et donc voilà, on avait cet intérêt mutuel pour le travail l'un de l'autre. Moi, par ailleurs, effectivement, je m'intéressais aussi, j'avais des frustrations, ça a été dit à plusieurs reprises, de pas transmettre toute la partie d'intensité émotionnelle de ce que c'est qu'une enquête de terrain. Que le travail académique, l'écriture académique permet pas de transmettre ça. Je trouvais que c'était important pour le lecteur aussi d'avoir accès à ça. Et puis la deuxième préoccupation que j'avais, c'était que ces jeunes que j'avais rencontrés, qui étaient des jeunes qui avaient souvent été en rupture scolaire, donc qui n'étaient pas des jeunes qui lisaient, ils n'avaient pas accès aux résultats de mon travail. C'est-à-dire que je diffusais auprès d'éducateurs, auprès de magistrats, auprès d'élus, mais pas auprès de cette population des quartiers. Et qu'il fallait un autre format pour qu'ils aient accès aux résultats de la recherche. Moi, j'étais formée dans la sociologie de Bourdieu avec l'idée que la connaissance des déterminismes, c'est ce qui nous permet de nous libérer un tant soit peu, et qu'il fallait que ces jeunes, ils aient accès à ce savoir et à ce que la sociologie propose aussi pour pouvoir un peu s'émanciper. Et donc, j'avais eu un peu des velléités. Alors, j'ai eu un projet de documentaire audiovisuel sur une jeune femme qui n'a pas abouti, mais qui allait assez loin. Donc, je travaillais aussi en collaboration avec une réalisatrice, donc sur d'autres formes d'écriture, avec aussi, comme il y avait des enjeux d'anonymat, un travail avec un dessinateur. Un beau projet, mais bon. C'était intéressant. Et donc, j'étais frustrée que ce projet n'aboutisse pas. Puis, il y a eu les attentats du Bataclan en 2015, avec cette idée que ces jeunes délinquants convertis à l'islam, finalement, étaient une espèce d'amalgame avec jeunes djihadistes, quoi. Et moi, c'était un peu ma population, une partie des jeunes, justement, que j'avais rencontrés. Donc, au début des années 2000, c'était convertis à l'islam, mais c'était aussi, enfin ça, Marwan Mohamed le montre bien, sur les sorties de délinquance, ça peut accompagner les sorties de délinquance parce que ça cadre. Et je me souvenais d'un d'entre eux, justement, qui avait eu ce parcours-là. Et après, je me suis dit, une espèce d'urgence à retourner dans les quartiers. C'est un moment que je n'avais pas travaillé sur ces sujets-là. Et j'ai appelé Mehdi. et je lui ai dit, écoute, je veux qu'on y retourne ensemble, je veux qu'on fasse on pourrait faire un documentaire radio. Je dis, mais cette fois, je veux être auteur avec toi. Voilà, donc une démarche un peu différente. Je ne veux pas simplement être un personnage de ton podcast. Et donc, il était d'accord. Et donc, on est retourné trouver Wilfried. Et on en parlera plus tard.
Julie Bernard, Donc vous êtes architecte et donc comme c'est écrit et peut-être présenter aussi ce collectif, l'ALCA, dont le nom peut être un peu mystérieux parce qu'il a changé de nom en plus dans l'histoire. Et peut-être aussi par rapport à ce collectif, qu'est-ce qui a motivé par rapport à l'action que vous menez de produire, de passer par le podcast à un moment donné pour agir. Il y a une intentionnalité.
Alors le groupe, il est même né de cette intentionnalité-là. C'est pas un collectif. Alors on galère un peu avec cette idée des noms, mais on est plusieurs architectes à avoir monté ce groupe, ce laboratoire. C'est hyper important pour nous parce que pour le coup, nous, on n'est pas du tout dans le champ académique. Et en fait, pour nous, il y a deux chemins. C'est-à-dire qu'il y a déjà le premier chemin, c'est la recherche, et ensuite c'est le son. Enfin, les deux vont ensemble, en fait. Moi, je suis architecte et pendant 5 années d'études, on m'apprend à dessiner et à penser à la place des autres. Voilà, assez simple, hein. Vous êtes un couple avec un enfant, vous voulez une cuisine ouverte, vous êtes un couple avec 2 enfants, vous voulez une cuisine fermée, c'est comme ça. Donc, assez vite, je me dis, c'est pas comme ça que j'envisage le monde. Et donc, assez vite, donc je travaille très peu en agence, mais très vite, on monte l'ALCA en se disant, en fait, il y a un problème. Il y a un problème sur la manière dont on pense la ville, il y a un problème sur la manière dont on la fabrique. Donc, il faut qu'on fasse de la recherche. Et il faut qu'on fasse de la recherche avec les personnes les plus précaires qui n'auront jamais de quoi se payer un architecte pour qu'on comprenne comment ça marche. Et donc, très vite, on se dit, mais en fait, les personnes à la rue ont une expérience et une expertise urbaine qu'il est urgent que les architectes et les urbanistes et les élus et les faiseurs de ville écoutent. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on en arrive au son. Et on en arrive au son et pas à la vidéo. C'est aussi une question qu'on nous a beaucoup posée en disant pourquoi vous passez pas à la vidéo. Et en fait, il y a aussi des raisons à ça. C'est qu'on est bourré, et on le voit aujourd'hui, même on travaille beaucoup sur les bains douches, on est bourré de fantasmes et de préconçus et de préjugés, etc. Et la vidéo les rajoute un peu. L'avantage du son, c'est que il y a tout un univers qu'on se fabrique et qu'on invente. C'est vous qui disiez ce matin que y a l'odeur, les voix, on peut évidemment pas les traduire, mais en revanche, dans une voix, on peut imaginer plein de choses et on ne peut pas imaginer d'où les gens viennent. Et donc, ça évite toute la question de « Ah, mais oui, c'est normal. » Je ne sais pas, c'est normal. C'est normal parce que, qui est toujours un peu compliqué. Donc l'ALCA s'est fondée autour de l'idée que nous étions plutôt architectes, que nous allions faire de la recherche et que nous allions produire des connaissances à partir et avec les personnes qui ne sont pas invitées à en produire. Voilà. Donc ça naît aussi d'une frustration, d'une colère et d'une envie de politiser ces questions-là et notamment les questions de fabrique urbaine puisque nous, on travaille là-dessus.
Très bien, Séverine Capco. Alors je vais pas faire comme Séverine qui dit qu'elle est un peu un ovni ici, mais parce que tu vas probablement dire la même chose. Mais voilà, il y a eu un choix à un moment donné de se tourner vers le podcast. Alors peut-être pas en lien du tout, tu le diras, avec ton travail de chercheuse, mais il y a eu ce besoin quand même d'aller vers le podcast et donc de produire cette série pour Arte Radio.
Oui, alors je suis l'autrice d'un podcast qui s'appelle Daily Mineur, qui est produit par Arte Radio. C'est une série de 23 épisodes de 10 minutes, série qui est en cours, hein, puisque je suis toujours en train d'écrire des épisodes. Je dirais que c'est une chronique judiciaire sonore impliquée parce que je raconte mon expérience de juge assesseur au tribunal pour enfants de Bobigny. Donc je produis des récits d'audience, c'est ma voix, je raconte et donc c'est peut-être pas de la c'est peut-être pas de l'écriture sonore, c'est de l'écriture pour la radio et il y a un travail sur le son pour mettre en valeur les textes et inscrire l'auditeur dans l'univers ou dans les univers dont je parle. Quand j'ai commencé ce projet, j'avais une conception très dualiste des choses. Il y avait d'un côté la recherche classique telle que je l'ai menée jusqu'ici en tant que chercheuse, enseignante chercheuse en sciences de l'éducation. Plutôt une pratique de l'ethnographie. On fait des observations, on fait des entretiens, on enregistre, on transcrit, on analyse le matériau et puis on met de côté les enregistrements, on les égare souvent. Et puis de l'autre côté, il y avait la création sonore. Donc je m'intéressais à la création sonore, j'ai été formée à la création sonore dans le cadre du collectif La Cassette, que peut-être certains connaissent à Aubervilliers, donc je recommande fortement le travail. Et bon voilà, dans cette perspective, eh bien, il s'agit souvent d'une perspective documentaire, d'articuler le son, de travailler, de prendre le son, de travailler la matière, etc. Et dans mon idée, ben, on laisse de côté la recherche quand on fait ça, et puis on va s'immerger sur des terrains. Bon, je situais un petit peu des mineurs, le podcast, dans ce côté-là. Donc, d'ailleurs, dans le premier épisode, je dis bien, ça n'a rien à voir, enfin, je ne le dis pas comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la recherche. Et dès que je peux, je dis, ce n'est pas de la recherche. Et puis finalement, en allant un petit peu dans des colloques, en étant invitée dans des journées d'études, en faisant des rencontres, j'ai découvert un continent qui était complètement inconnu pour moi. Alors vraiment, je suis, voilà. Ouais, c'est ça, j'ai découvert le monde de la recherche-création. Donc une espèce de monde émergent, d'univers émergent. J'ai découvert qu'il y avait des structures, il y avait des financements possibles, il y avait des collections qui pouvaient accueillir, voilà, où, là je découvre aujourd'hui des revues sonores. Donc ça a été toute une découverte qui m'a amenée à faire un retour sur, à interroger qu'est-ce que c'est que cet objet sonore que j'ai produit, qu'est-ce que c'est que Daily Mineur. Est-ce que c'est si coupé de la recherche? Bon, déjà, c'est sans doute indissociable de ma formation de chercheuse, parce que je pense que je raconte en tant que chercheuse ou, disons, en tant que formée aux sciences sociales. Et donc, alors je ne diffuse pas des résultats de la recherche, mais je diffuse une sensibilité, j'ai envie de dire, sociologique. Et peut-être c'est quelque chose que j'ai découvert, que ça faisait aussi peut-être partie de ce qu'on... Après tout, je suis enseignante chercheuse, et diffuser cette sensibilité, ça me semble être une possible dimension de mon travail. Et puis, ces rencontres m'amènent finalement à interroger la nature même donc de ce podcast. Est-ce que ce serait pas un matériau de recherche? Est-ce que je pourrais pas prendre cette collection de récits d'audience pour réinvestir ce matériau? Et est-ce que c'était pas une enquête? Et est-ce que j'avais pas besoin de passer par une écriture créative pour arriver à me saisir de cette expérience? Voilà, parce que j'en parlerai peut-être cet après-midi, mais il était sans doute pas possible de faire une enquête participante en étant aussi impliquée, en étant aussi engagée dans des moments aussi compliqués. Et finalement, ce travail créatif me permettait sans doute de me ressaisir, ne serait-ce que cette première étape de narrer, de me ressaisir de ce qui s'était passé en audience.
Merci. Alors, on va finir ce tour de table avec Fanny Dujardin, qui a été élève ici également. Et aujourd'hui, vous êtes donc doctorante à Marseille, et votre pratique du podcast est assez longue maintenant. Mais du coup, quelle était, je pose la même question, à la fois pour vous situer votre propos encore une fois, et pour situer votre entrée quelque part dans le podcast?
Alors, peut-être que ce qui est un petit peu particulier par rapport à mon parcours vis-à-vis des autres personnes de la table ronde, c'est qu'en fait, la pratique, je dirais plutôt du documentaire sonore que du podcast, parce que c'est vraiment le genre documentaire moi qui m'a, enfin que ce que je fais, enfin je décris ça comme du documentaire. En fait, cette pratique-là précède la recherche. J'ai eu la chance, bon, j'ai été élève ici, j'étais en lettres modernes à l'ENS, et après j'ai eu la chance de faire un master d'écriture et réalisation documentaire qui s'appelle le CréaDoc, que peut-être vous connaissez, qui se situe à Angoulême et qui dépend de l'université de Poitiers, où on nous forme en 2 ans, d'une part à l'écriture radiophonique et ensuite à l'écriture audiovisuelle, cinématographique. Ce qui fait qu'en fait, en sortant de là, on devient complètement autonome sur la réalisation d'un projet documentaire, de l'écriture au tournage, en passant par le montage et quelques rudiments de mixage. En fait, en sortant de là, on peut un peu tout faire, pas forcément très bien, mais en tout cas, on a vraiment les outils en main pour faire ses propres projets de manière indépendante et sans avoir forcément besoin, bah, comme tu disais, d'une production derrière. Voilà. Et en fait, avec mon regard ou mes questions un peu de lettreuse qui continuaient de m'habiter quand j'étais là-bas, je me suis dit, mais il y a un peu un manque d'outils théoriques pour penser l'écriture radiophonique, d'une part, donc la grammaire sonore, les différents niveaux de voix, en fait, dans une production sonore, comment elles produisent du récit, quels sont les rapports entre les voix et les sons, qu'est-ce qui change entre un texte littéraire et une création radiophonique dans le statut du langage. Donc ça me travaillait beaucoup. Et aussi, En fait, quand on fait des documentaires sur le terrain et qu'on n'est pas, notamment sans être formé en sciences sociales, y a une foule de questions éthiques qui vont se poser. Dès qu'on tend le micro à quelqu'un, on va capturer sa voix pour en faire quelque chose sans forcément la consulter. Il y a une appropriation.
Il y a une sélection.
Il y a une sélection.
La question de la belle voix.
Oui, et puis ça peut. Parfois, on demande aux gens de parler de choses très intimes qui peuvent être difficiles à évoquer, qui peuvent les mettre en danger. Et puis, par ailleurs, il y a souvent une certaine distance sociale entre la personne qui enregistre et la personne qui est enregistrée. Enfin, voilà, en fait, il y a beaucoup de... Moi et mes camarades, on avait pu ressentir comme ça des petites gênes, des petits blocages, enfin, des choses qui posaient problème sans avoir les mots pour décrire ces problèmes et les outils pour les penser. Et en fait, le désir de faire... Donc, moi, actuellement, je suis doctorante.
Sur cet objet-là.
Voilà, et en fait, ma thèse porte sur le documentaire radiophonique. Le cadre un petit peu de la thèse, enfin, l'intitulé, c'est « Écrire avec les voix des autres, pratiques, poétiques et politiques du documentaire radiophonique ». Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les personnes qui vont enregistrer des gens pour faire du documentaire radiophonique à partir de leur voix, comment elles s'y prennent, quel type de gestes elles effectuent. Quel type de discours elles vont tenir aussi sur leur propre pratique et comment en fait elles conçoivent leur rapport aux enregistrés. Sachant que pour moi en fait l'enregistrement c'est vraiment un dispositif de production de la parole. J'essaye de vraiment mettre l'accent sur tout ce qui va modeler la voix de l'autre, la voix qu'on récolte. Et donc voilà, cette recherche-là permettait de répondre à des questions éthiques qui s'étaient posées, qui sont issues du terrain. Enfin, j'appelais pas ça un terrain à l'époque, mais voilà, issues des expériences de tournage documentaire. Et en fait, c'est une thèse de recherche-création. Donc, à Aix-Marseille Université, il y a un parcours qui s'appelle Pratique et théorie de la création littéraire et artistique. C'est un peu long, mais en gros, l'idée, c'est que c'est de la recherche-création. Donc, on présente un manuscrit à la fin et des projets artistiques réalisés pendant la thèse. Et c'est vrai que moi, je conçois les documentaires vraiment comme un art, enfin comme une écriture créative avant tout, et pas forcément comme un lieu de diffusion de la recherche avant tout. Donc peut-être mes motivations aussi dans la création. Enfin, moi, c'est plutôt l'idée d'avoir une sorte de double identité entre artiste ou autrice radio et de l'autre côté, chercheuse en art sur les pratiques artistiques. Voilà. Et donc, au cours de la thèse, j'ai réalisé des documentaires qui ont permis de un petit peu mettre en application des pistes de nouvelles manières de concevoir un peu des dispositifs d'enregistrement issus de mes recherches et puis qui posent aussi de nouvelles questions de recherche et un peu un effet de feedback entre création et recherche comme ça qui font aussi avancer la recherche peut-être vers des zones que j'aurais pas forcément imaginé au départ.
Merci, je vous remercie tous les 8.
Cet épisode est l'un des 4 podcasts produits lors de la journée d'études de lancement du programme Essor. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur le site de Cas d'École dans les hors-séries. Suite à cette journée d'études, les 8 doctorants, doctorantes, chercheuses et chercheurs participant au programme Essor ont bénéficié, en février, d'une première résidence de 3 jours. Des temps théoriques et pratiques, ainsi que des temps d'échange sur leurs projets individuels, ont permis aux candidats de repartir avec un bagage solide quant à la prise de son et des objectifs d'enregistrement et de rédaction clairs à atteindre d'ici à la seconde résidence. Celle-ci se tiendra du 24 au 27 juin 2025 et aura pour thématique l'écriture et la réalisation des productions sonores. Merci à Sébastien Boudin pour la réalisation technique de l'épisode. À bientôt !